Oui, vous l'avez compris, j'ai quelques handicaps, je ne suis pas français, je n'appartiens pas au réseau Reseda et je ne suis pas didacticien. Donc je demande auprès du jury les circonstances atténuantes et en plus il est tard. Alors, ce ne sera pas simple. Et en plus je ne vais pas faire ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler des problèmes politiques essentiellement, je vais essayer de parler de mon problème à moi qui est d'enseigner à des enseignants ou de futurs enseignants du niveau lycée. Pour tout vous dire sur mon bout de carrière, j'ai commencé au début de ma carrière dans des écoles normales, pas supérieures, donc des écoles normales d'instituteurs. Puis je suis retourné à l'université travailler sur les problèmes de politique et notamment de ciblage des politiques. Et j'ai contribué, je le dis normalement quand je suis en Belgique, aux formules de financement des établissements et à qui on allait donner un peu plus. Donc c'est toujours un sujet scabreux, puisqu'il y en a qui ne sont pas dedans. Et puis là, depuis 3 ans, je suis en charge en institution, arrivé dans une institution où je dois faire 2 choses, m'occuper de politique, ça va, mais aussi de formation des profs de lycée, on va dire ça, qui sont formés à l'université. Chez nous, d'accord, et qui sont formés en 300 heures. Donc, premier point, ça c'est lié au fait que je suis en dehors de mon territoire habituel. 2 questions pour vous. La première porte sur la définition de milieu difficile. Moi j'aime assez bien cette idée de milieu difficile. Pour tout dire, chez nous, l'idée de périphérie est un peu bizarroïde, puisque la périphérie, on l'a mis au centre. On a un modèle un peu urbain, un peu différent. Donc la notion de périphérie, j'en emploierai jamais. Mais milieu difficile, moi j'ai repris à peu près les termes de l'acte fondateur du centre Alain Savary, c'est de dire ben, finalement, c'est un problème interactif. C'est des situations scolaires qui sont rendues difficiles par la présence. Alors j'insiste sur le côté massif ou une proportion importante de jeunes qui, sans nécessairement présenter des problèmes de comportement, ils ne sont pas forcément insupportables, ces jeunes-là, hein, ils ne sont pas désobligeants ou inciviles, sont porteurs de caractéristiques individuelles qui entraînent les enseignants et de manière générale tous les personnels à devoir mettre en œuvre des moyens supérieurs à la moyenne pour espérer obtenir des résultats comparables à ce que les autres obtiennent. C'est une façon politiquement correcte, j'espère, de définir les choses en disant finalement le problème il est bien entre nous les enseignants et vous les élèves, parce qu'on doit investir davantage. Oui. Ce qui va permettre de... mais on n'est pas obligé de souscrire à cette définition, donc ce sera ma première question pour le public. Ma deuxième question porte sur la notion d'éducation prioritaire. On ne sera sans doute pas non plus nécessairement d'accord, mais elle découle de la définition précédente. Moi je mettrais dans éducation prioritaire... je dis que c'est une forme d'éducation compensatoire qui est basée sur l'identification d'un groupe ou de plusieurs groupes d'élèves qui bénéficient à travers les structures scolaires et la plupart du temps des établissements, donc ce n'est pas des bourses qu'on donnerait individuellement à ces élèves, de moyens supplémentaires, ça peut être des heures d'enseignants, des moyens de fonctionnement, tout ce que vous pouvez imaginer, pour atteindre les objectifs généraux qui s'imposent à l'ensemble des élèves d'une génération. Donc obligation de résultat, on poursuit les mêmes résultats, mais puisqu'on doit mettre un peu plus d'énergie pour obtenir ces résultats, eh bien on a en quelque sorte... une cagnotte qui nous permet de compenser ce super investissement, en quelque sorte. Et ça passe à travers les unités habituelles, qui sont les unités école, établissement. Voilà la deuxième définition qui pourrait faire question. Pour tout vous dire, ce sont des problèmes auxquels on va s'affronter sans doute dans un projet européen que coordonne le centre Alain Savary au niveau européen. Quand on est tout seul, dans un seul pays, c'est plus facile. On peut penser qu'on est tous d'accord. Mais évidemment, quand on regarde les autres, on est bien obligé d'essayer de se mettre d'accord sur ce dont on parle pour savoir si on parle de la même chose. Et donc, voilà des débuts de propositions à casser. Pour tout dire aussi, 2 mots sur la maison chez nous. On a donc en Belgique francophone des politiques qui, au début, en 89, étaient calquées sur VOSEP, initial. Et puis en 98, on est passé à un modèle qu'on appelle discrimination positive. Il y a eu beaucoup de débats sur le terme lui-même. Enfin, bon, on a gardé ce terme-là. Et qui porte sur des moyens supplémentaires attribués aux établissements qui scolarisent les 12,5% à peu près d'élèves qui appartiennent aux quartiers les plus défavorisés. Et chez nous, c'est pas comme chez vous, il n'y a pas de carte scolaire. On va dans l'école qu'on veut, qu'on choisit, donc on a un véritable marché. Et donc la notion même de zone d'éducation prioritaire qu'on avait adoptée au début était un peu rigolote parce que ça ne correspondait pas vraiment à la réalité. Et les populations peuvent varier en effet relativement fortement à certains moments. Il est certain que les bateaux amiraux de la flotte restent toujours les mêmes et les bâtiments les moins soignés ou les plus difficiles restent aussi les mêmes. Mais entre ces deux choses, il peut y avoir de la mouvance. Et on peut trouver dans le même quartier des établissements haut de gamme et des établissements bas de gamme. Vous permettrez ce raccourci pour aller vite. Ce n'est pas une question d'espace. Chez nous, on a une forte densité de population et des transports qui sont relativement acceptables, ce qui fait qu'en ville, on retrouve les deux types d'établissements sur des espaces très, très proches. Donc voilà pourquoi on a un autre système d'allocation de moyens. Alors, pour toujours essayer de s'entendre sur les mots, moi, je crois qu'aussi, il faut peut-être voir avec nos enseignants, et là je rentre dans les difficultés qu'on a avec les enseignants en formation, sur ce dont on parle quand on va parler de nos pratiques. Est-ce qu'on va vouloir changer quelque chose? Est-ce qu'on va parler de changement? Et changer, ben, c'est modifier une situation, mais pas forcément pour que ça aille mieux. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ou est-ce que nous parlons d'innovation? Moi, c'est un mot qui m'hérisse beaucoup, parce que l'innovation, à strictement parler, ben, c'est une modification qui conduit à mettre des éléments nouveaux, hein, ou qui sont nouveaux pour l'endroit où on les met, mais qui ne sont pas forcément nouveaux depuis toujours. Quand on met des ordinateurs dans les écoles, il y avait depuis très longtemps des ordinateurs, ça existait. Oui. Ça, c'est de l'innovation. Moi, je préfère m'attacher à un autre terme, et il est plus exigeant, c'est le concept d'amélioration. C'est-à-dire, ça suppose trois choses, l'amélioration. Changer une situation initiale qui est inadéquate, donc être capable de dire qu'elle n'est pas adéquate, et donc d'être capable de former un diagnostic, de reconnaître entre professionnels que ça ne va pas, que ce n'est pas ce que nous voulons, ou que ça ne colle pas à ce qu'on nous demande de faire. Deux, eh bien, d'essayer de planifier un changement, d'avoir une vue sur ce qu'il faut faire, et ça, c'est sur le diagnostic, on est assez bien armé à l'université pour faire des diagnostics, mais sur qu'est-ce qu'il faut faire, c'est une autre histoire. Hein, on n'a pas une tradition lourde, ou on n'a plus une tradition lourde d'expérimentation contrôlée en éducation. Hein, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup dans le monde latin. Et puis trois, pouvoir évaluer les résultats et pouvoir les comparer par rapport aux objectifs qui étaient visés, donc avoir des objectifs suffisamment précis et des moyens d'investigation suffisamment clairs pour pouvoir se dire, bah, on a fait un pas en avant. Oui, moi, c'est vraiment cela qui m'intéresse. Et donc, pour faire cela, bah, il nous faut des modèles de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on veut, hein, qu'est-ce qui nous satisferait, quels sont les objectifs du système, comment est-ce que nous allons le jouer là-dedans, quels sont les modèles d'action que nous connaissons et qui ont quelques chances de fonctionner. Quelques chances de fonctionner dans les conditions qui ne sont pas forcément celles dans lesquelles on a essayé les choses. Alors pour faire ça, et pour essayer de lutter contre un savoir morcelé qu'on a à l'université quand on forme des futurs enseignants de niveau lycée, je commence avec un modèle que j'emprunte à Robert Slevin, qui est un Américain, et qui a construit ce modèle, notamment sur une véritable psychologie éducationnelle, un peu celle qu'Alain Mercier appelait en disant ben, on aurait besoin de ce genre de choses. Bon, ça peut exister. Alors, le modèle est très simple. Il propose des grandes boîtes, et il faut aller voir dans les boîtes, et il faut réfléchir à ce que veulent dire ces boîtes. Mais il y a cette idée de s'orienter d'abord vers les... Je l'ai gardé en version originale. De s'orienter vers les résultats. Alors, on peut discuter des résultats. Ça amène, dans un cours, à discuter de quels sont les objectifs. Est-ce qu'on parle de compétences, d'objectifs? Est-ce que c'est cognitif? Est-ce que ce n'est pas cognitif, etc. Mais, en tout cas, il y a des résultats que nous voulons atteindre. L'école, elle est calibrée vers quelque chose. Hein, on peut discuter du quelque chose, mais il y a un quelque chose. Alors, on peut, évidemment, avoir un modèle très simple qui s'intègre au modèle général, c'est de dire, bah, finalement, ça dépend des entrées, ça dépend la qualité des résultats, c'est la qualité des entrées, hein, c'est-à-dire les aptitudes des élèves ou leur motivation. Et très souvent, c'est le modèle qui explique très bien, dans le langage courant, hein, « Ah bah ils sont trop nuls pour y arriver », ou « Ils veulent pas, alors on peut pas les faire manger s'ils n'ont pas envie de manger hein. ». Et donc, avec ce modèle-là, on a, je dirais, le sens commun qui est assez bien rendu. Mais heureusement, la plus-value du modèle de Slevin, c'est d'ajouter une composante importante en deux blocs, c'est de se dire, bah, on peut parler d'efficacité de l'enseignement, on peut parler de ce sujet-là, et on peut aussi parler du temps qui est réellement engagé à la tâche, parce que c'est la combinaison de la qualité de ce qu'on fait et du temps qu'on passe vraiment à le faire qui produit des résultats, bien sûr, compte tenu de la qualité de ce que nous avons à l'entrée qui va jouer. Mais en quelque sorte, ce qui est en bleu sur l'écran, en jaune, pardon, sur l'écran, c'est une sorte de mécanisme intégrateur qui intègre les composantes liées aux élèves, mais aussi les variables changeables, hein, celles que nous pouvons espérer essayer peut-être un jour de maîtriser. Alors là-dedans, il y a la qualité de notre enseignement, la façon dont nous faisons les choses, et on a entendu beaucoup de choses de la part de nos collègues didacticiens sur cet aspect-là, hein. Comment peut-on améliorer les choses, comment peut-on réfléchir un peu plus et améliorer la qualité de ce que nous faisons? Comment pouvons-nous aussi réfléchir au niveau auquel nous attrapons les élèves au début de l'apprentissage, ouais. Alors, Dans ce modèle-là, rien ne vous interdit de dire bah, « ceux qui sont trop nuls, on ne les prend pas ». Hein, ce serait aussi se poser cette question-là. Ce n'est pas tout à fait le sens des interrogations de Slavin, c'est-à-dire comment fait-on attention au niveau auquel on est, pas pour y rester longtemps, mais pour faire en sorte que réellement on capture les élèves, à la fois pas trop bas, mais pas trop haut non plus. Hein, donc comment peut-on s'ajuster pour les prendre et faire un bout de chemin et aller vers nos objectifs. Troisième boîte sur laquelle, ou troisième ensemble sur lequel on peut travailler, eh bien, ce qui est de l'ordre de la motivation, des incitants, hein, comment peut-on faire en sorte qu'on mobilise ces élèves vers les apprentissages, hein, soit par une amorce qui n'est pas simplement dire « allez, on fait quatre exercices » comme Alain l'évoquait, hein, mais en essayant de contextualiser, bon, ça peut être d'autres choses, y compris même des punitions. Hein, le modèle n'interdit pas. Encore une fois, ça nous dit que faisons-nous, nous, pour mettre en marche. Et la quatrième boîte concerne le temps que nous autorisons pour les apprentissages, y compris le temps que nous perdons en arrivant en retard et en n'arrivant pas juste à l'heure en classe et en mangeant 10 minutes à chaque cours, par exemple, hein, ou en veillant à ce que le temps soit mis à profit au maximum, en réfléchissant sur la nature des activités. Hein, est-ce que c'est vraiment une activité qui va contribuer aux apprentissages ou est-ce que c'est un mangeur de temps ? Etc., etc. Et donc ce modèle, si vous le voyez, et évidemment il y a des interactions entre nos différentes boîtes, hein, si ce que je fais est agréable, bah, c'est déjà un incitant. Si j'ai bien pensé à ma façon d'amener les choses, eh bien évidemment ça consiste déjà en un motivant partiel. Donc si vous avez suivi l'histoire, eh bien on a donc en quelque sorte une multiplication, hein, si j'essaie de le symboliser par des opérations, entre des entrées ici qui sont liées à ce que nous ne maîtrisons pas, les élèves arrivent à un endroit donné avec des caractéristiques particulières, et puis des entrées que nous essayons de maîtriser, et cela s'intègre en quelque sorte ici. Alors évidemment, si les élèves ne sont pas dans les classes, on a beau faire des beaux cours, ils n'apprennent rien. Hein, le modèle n'est pas miraculeux, et il y a un certain nombre de choses qui vont même dans les programmes de nos collègues américains, connu sous le nom de Title One, qui est un peu l'équivalent des EP, si vous voulez, le concept, jusqu'à téléphoner aux familles pour s'assurer que les enfants sont bien là, viendront bien et se leveront. Hein, c'est très intrusif. Dans notre logique à nous, on ne verrait pas bien le principal s'amuser à faire ce genre de choses pour s'assurer que les élèves seront à l'heure au début. Mais ça peut être des... Pardon, alors si. Donc, on peut l'imaginer donc très bien, ici aussi. Et ça fait bien partie du problème de gestion du temps. Hein, c'est s'assurer qu'ils sont là, bah, ça fait partie de leur assurer le maximum de temps possible. Donc, ce petit modèle, simplement, moi, ça me sert à entrer avec les étudiants, hein, et à essayer de recomposer les choses. Et après, nous interroger soit sur l'approche curriculaire, qu'est-ce qu'on veut, soit sur des aspects particuliers, et de les renvoyer vers certains cours de didactique spéciale, par exemple, puisque à l'université, nous avons différentes facultés, et chacun retourne dans sa faculté pour les didactiques spécialisées, etc., etc. C'est une première façon d'essayer de recomposer les choses et de redonner un peu de sens à l'ensemble des boîtes réellement qu'ils reçoivent, c'est-à-dire des morceaux de cours qu'ils peuvent recevoir avant d'être envoyés sur le terrain. L'autre modèle, très rapidement aussi, ça c'est un modèle que j'emprunte à d'autres nord-américains mais francophones cette fois, deux collègues canadiens, Bouchard et Plante, qui permet d'avoir une vision réflexive sur ce que nous faisons. Hein, et sur ce que nous produisons. Alors, ça peut être un organisme de formation, mais ça peut être un programme de formation, un ensemble de cours, mes cours d'analyse des programmes de l'enseignement obligatoire, par exemple. Là, je peux considérer que c'est de ça que je vais parler. Eh bien, ou la formation pédagogique des futurs profs de lycée à l'université. Eh bien, ici, on a bien sûr un organisme, un programme, un service, et tout programme, service, etc., possède trois composantes. Des objectifs, on veut faire quelque chose, des moyens, hein, on a un peu de sous, on a des locaux, une caméra vidéo, des intervenants, ben c'est nous, c'est les profs, c'est les autres personnels. Ça produit un certain nombre d'effets, tout cela, et peut-être même que parmi ces effets-là, il y a des choses que nous voulions, c'est-à-dire des résultats. D'accord ? Ça, c'est le point de départ. Alors, ce point de départ, si je veux essayer d'interroger la qualité de ce que je fais, je vais vous présenter 9 dimensions. Alors, la première, évidemment, dans les résultats, ce n'est pas une dimension, mais c'est la première interrogation, c'est de se dire qu'il y a des choses à court terme, des choses à moyen ou long terme. Si vous voulez, on peut aussi le présenter en résultats internes et résultats externes, c'est-à-dire on produit des savoirs, on réussit à des examens, et puis après on lâche les élèves dans la vie pour de vrai, et évidemment on espère que ce qu'on a appris, ça va leur servir un petit peu pour la vie, pour de vrai. Alors, première question, évidemment, que j'ai à me poser, et que j'encourage à poser, c'est de se dire, ben, est-ce que mes objectifs sont pertinents ? Alors, dans certains cas, on n'a pas à se poser cette question, et c'est même un peu dangereux de se poser cette question si on a un programme qu'on nous impose. On peut toujours se la poser, mais ça ne changera pas nécessairement le programme. Deuxième question à se poser, c'est, mais finalement, vis-à-vis des contraintes, avons-nous les moyens et sommes-nous à propos ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des choses alors qu'avec les contraintes que nous avons, manifestement, on ne le fera pas. Faire une formation en informatique, si on n'a pas un seul ordinateur dans la maison, bah, c'est un peu illusoire. Alors on peut décider d'acheter les ordinateurs, trouver des moyens pour les acheter, les réclamer auprès du ministère, peu importe. Mais en tout cas, c'est une dimension à laquelle nous devons nous poser. Et l'une ne chasse pas l'autre. La pertinence ne chasse pas la propos ne chasse pas la pertinence. Ce n'est pas la même chose. Troisième dimension importante à questionner, sans doute, c'est la question de la cohérence. Est-ce que, finalement, nous, les intervenants, on est en accord avec les objectifs ? Et ça, dans les établissements dans lesquels nous travaillons, ce n'est pas une question idiote non plus de se dire, mais est-ce que, finalement, nous, là, tous, on est bien en accord avec ce qu'on nous demande de faire ? Est-ce que nos objectifs, qu'on les ait posés nous-mêmes ou qu'on nous les ait assignés, est-ce que nous sommes bien tous en phase avec ça ? Si nous ne le sommes pas, bah, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est une autre histoire. Puis il y a des questions plus triviales, question d'efficacité. Finalement, est-ce que nous atteignons nos objectifs à court terme ? Appelons ça efficacité. Est-ce que nous atteignons nos objectifs avec les moyens qu'on nous assigne ? Et c'est une question d'efficience. Est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Est-ce qu'on pourrait économiser sur les moyens pour les réinvestir ailleurs, par exemple ? C'est bien une question d'efficience. Est-ce que... Ça, c'est peut-être aussi un peu original par rapport à ce que nous entendons pour nos collègues canadiens. C'est finalement, dans le coût des opérations, il y a un aspect qui est le coût humain, que souvent on ne considère pas. On peut voir deux établissements équipés pareil, même nombre de profs, même équipement, mais on se rend compte que finalement, ça ne produit pas les mêmes effets. Et pourtant, les élèves ont l'air aussi relativement les mêmes. Mais quand on regarde de près, on se rend compte que, par exemple, la salle, le labo de sciences, il est squatté par le titulaire qui est le plus ancien de la maison, qui ne fait pas d'expérience du tout, mais qui le squatte parce que c'est chez lui. Et le jeune prof qui vient d'arriver, ben, il n'a qu'à faire des expériences sur des pupitres ordinaires. Ça, évidemment, ça peut arriver, et ça fait de la friction, et ça ne fait pas fonctionner au mieux les moyens dont on dispose. On sait que les moyens sont limités, et en les utilisant comme ça, y compris des cours qui ne sont pas des cours de sciences dans des labos de sciences, ben c'est de la dispersion de moyens, c'est de la friction, c'est l'affirmation de son prestige personnel, sans doute, mais ça ne fait pas fonctionner au mieux, avec synergie, le système. Une autre question qui, évidemment, est souvent repoussée, c'est la durabilité de nos apprentissages. Est-ce que, finalement, ce qu'on est en train de faire, ça respecte les programmes, ils n'y arrivent pas trop mal en termes de résultats, on a un bon taux de bacheliers, etc., mais finalement, et dans la vie ? Et dans la vie, est-ce que notre établissement produit des gens qui vont être heureux, qui vont obtenir un emploi, qui vont, etc., etc. Qu'est-ce que nous en savons ? Souvent, pas grand-chose. On n'est pas équipé pour le savoir, d'ailleurs. Mais c'est sans doute aussi une question qui serait satisfaisante à pouvoir résoudre. Autre problème, évidemment, c'est l'impact sur l'environnement. Notre établissement... Il produit bien sûr des résultats, tout ce que nous avons pensé, mais il a aussi un impact sur l'établissement. La façon dont nous travaillons, la qualité de notre établissement peut avoir un impact sur le prix du foncier. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément anticipé, mais ça peut jouer sur d'autres paramètres. Ça peut, si c'est un établissement nouveau, je pense par exemple quand on a mis les aînés à Poitiers, ça va évidemment avoir un impact sur la région. Et ça va avoir un impact autre sur la région où il n'est plus, etc. Donc on peut se poser toutes ces questions. Alors, je pourrais poser la même question pour l'INRP, mais je ne le ferai pas, comme il m'accueille encore jusqu'à la fin de la semaine. Et bien sûr, le problème, c'est quand on apprend quelque chose, on essayait de correspondre à des besoins, on était pertinent, et puis à un moment donné, ben, on a fait quelque chose, ça a produit des résultats, et puis les besoins, ils ont changé. Alors je vais prendre un domaine qui n'est pas la scolarité au sens strict, mais si je suis dans une petite ville, que j'ai un centre d'alphabétisation, et puis à un moment donné, j'ai bien travaillé, j'ai alphabétisé tout le monde, ben, de deux choses l'une, ou je disparais, ou éventuellement je change et je m'ajuste. Et je me dis, tiens, oui, mais alphabétisation, il ne faut pas voir que la lecture, simplement, de 2-3 magazines, etc. Il y a aussi l'informatique, parce que l'alphabétisation numérique, et donc je rechange, j'ai une certaine flexibilité, et je revois évidemment mes objectifs. Ça, il faut avoir la capacité, évidemment, de revoir ses objectifs. La flexibilité peut être aussi liée, non pas aux objectifs, mais à la nature de la population. On était dans un bahut où on avait l'habitude de travailler avec un certain public, et puis subitement, l'habitat change ou se dégrade, on a un autre public qui nous arrive, et on a toujours les mêmes objectifs, mais on va devoir revoir peut-être notre façon de travailler. Eh bien, ça, c'est bien de l'ordre de la flexibilité. Et donc, avec ce modèle, qui est relativement simple quand on le présente comme ça, ça donne aussi, et ça, enfin moi je l'espère du moins, ça donne aussi un moyen de réfléchir et de mettre, je dirais, un peu en perspective notre réflexion sur les apprentissages, sur ce que nous faisons. Ça peut être au niveau d'un système éducatif et ça nous permet de comparer des systèmes, hein, mais ça peut être aussi au niveau des établissements, au niveau de groupes scolaires, pour voir ce que nous faisons et où il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc voilà un autre outil que moi j'utilise dans les formations pour essayer justement de permettre d'avoir des praticiens réflexifs. On peut faire des incantations pour avoir des enseignants qui deviennent des praticiens réflexifs, mais je pense qu'il faut aussi outiller les praticiens pour qu'ils deviennent réflexifs. Et donc ce genre de choses peut, à mon sens, et ça semble en tout cas fonctionner, être une façon de faire. Voilà, je pense avoir été dans le temps. Ben oui, mais ça fait partie de l'efficacité. Merci. Merci.